sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comme le veut la tradition, les cinq académies qui forment l'Institut de France se réunissent chaque année le mardi le plus proche du 25 octobre en souvenir de la création de l'Institut le 25 octobre 1795. À cette occasion, un délégué de chaque académie prononce un discours sur un thème choisi. Cette année 2008, le thème collectivement choisi était l'éducation. Jacqueline de Romilly, de l'Académie française, a prononcé un discours intitulé « Éducation et enseignement ». Grâce à Canal Académie, entrée sous la coupole.
Enseignement et éducation sont deux mots presque synonymes et qui peuvent très bien s'employer dans la même valeur comme équivalent. Il y a cependant une nuance. L'éducation et l'enseignement présentent cette différence que l'enseignement consiste avant tout à dispenser des connaissances intellectuelles. Et le mot éducation, qui a pu s'employer pour des animaux, désigne le fait de mener un être à l'accomplissement de ses qualités propres. Pour l'homme, les qualités dites humaines sont non seulement les qualités de l'esprit, mais du caractère, de la sensibilité et de l'aptitude à la vie en société. Naturellement, de ces deux notions, enseignement et éducation, aucune des deux ne va vraiment jamais tout à fait sans l'autre. Mais il se trouve que depuis quelques décennies, on a vu surgir une sorte de divorce entre ces deux orientations. Et il en a résulté une crise qui m'a paru grave et pour laquelle j'ai souhaité vous dire quelques mots dans cette occasion et dans ce lieu particulièrement solennel. Les causes de cette crise sont, je crois, évidentes. Elle n'est due ni à un gouvernement, ni à une administration, mais à un ensemble de tendances qui se sont peu à peu développées dans l'opinion en général. Il y a d'abord l'attrait légitime et réel des découvertes scientifiques ou techniques de notre époque, qui a eu pour effet de faire abandonner, mépriser un peu ce qui devait le compléter. Il y a surtout l'urgence créée par les difficultés sociales ou économiques qui exige que l'on trouve un gagne-pain rapidement. Il y a d'autre part le respect passionné de la liberté de l'enfant, respect qui va souvent à l'encontre de ses intérêts. Et tout ceci se passe à un moment où l'influence éducative de la religion ou de la famille se sont trouvées beaucoup amoindries. Le résultat a été que toutes les parties de l'enseignement, toutes les disciplines qui visaient plus spécialement à cette formation de l'homme au sens large, ont été peu à peu amoindries, rejetées, écartées. Cela est vrai et de beaucoup, et ayant consacré tant et tant d'années à m'occuper d'enseignement, j'ai souhaité aujourd'hui évoquer deux ou trois des disciplines ou voire des méthodes qui ont ainsi été amoindries et rejetées, en partie ou tout à fait, alors qu'elles ont une réelle utilité dans la réussite de la vie pratique, mais qu'elles ont de plus une utilité tout à fait exceptionnelle dans le domaine de la formation morale. Et pour commencer, parlons au nom de l'Académie française, je souhaiterais donner la première place à la maîtrise de notre langue. Personne ne peut nier que les exigences en ce domaine aient depuis bien des années diminué au point d'arriver à une situation consternante. Pourtant, la vraie maîtrise de la langue, de notre langue, cela représente de façon pratique pour toute la vie une utilité constante et indispensable. Cela commence avec le premier entretien que l'on a pour obtenir un emploi. Cela continue avec la défense de n'importe quel projet entre égaux, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine politique. Et cela continue avec le vrai maniement d'une pensée personnelle qui est alors utile pour tous. C'est pas mal. Mais il y a plus. Si l'on regarde les conséquences de l'incapacité à manier notre propre langue, on en découvre un bon nombre, mais parmi elles, par exemple, le recours à la violence. Parce qu'on ne trouve pas ces mots, on en vient au coup. Et parce que l'on ne comprend pas bien ce que veut dire l'adversaire, on s'entête en vaine querelle. Une vraie facilité à manier correctement la langue française, à s'expliquer clairement, n'est donc pas du tout une élégance vaine et gratuite. C'est, je crois, un des plus sûrs moyens, et en tout cas un moyen indispensable, de développer chez l'enfant, chez le jeune, le progrès d'ordre moral et développer aussi le progrès de la société à laquelle il participe. Mais attention, si l'on parle de bien comprendre la pensée des autres, cela implique aussi de bien comprendre la pensée des gens du passé. Et là, nous trouvons un second aspect de cette crise, à mon avis, fâcheux. Trop de jeunes, à l'heure actuelle, semblent penser, même quand ils ont fait de l'histoire et sérieusement, ils semblent penser que la réalité commence au jour de leur naissance. Tout ce qu'il y a avant, c'est un mélange confus, un magma indifférencié, une sorte de temps virtuel. De plus, les moyens d'information et de diffusion de notre époque font que l'on présente volontiers toutes les œuvres et tous les moments de l'histoire ensemble sur nos écrans comme s'ils étaient contemporains. Et souvent même, hélas, on modifie les œuvres un tout petit peu, un peu plus, pour, comme on dit, les adapter au goût du jour. J'ai eu beaucoup de preuves et d'exemples de cette fâcheuse tendance. Elle a été évoquée dans des récits, des œuvres sur des sociétés à venir. Mais dans l'enseignement, elle est déjà parfaitement et clairement sensible. Je ne vous citerai qu'un exemple extrêmement personnel. C'est celui de cet élève, déjà adulte, qui m'a un jour demandé très gentiment si ces langues mortes que j'enseignais, à savoir le latin et le grec, étaient déjà mortes quand j'étais encore jeune fille, ou si c'était arrivé depuis lors. Et encore, j'étais moins âgée à ce moment-là. Elle n'avait même pas cette excuse. Même les erreurs du passé, quand elles ont été dominées et comprises, sont d'une grande utilité. Autrement, on est voué au sort de ces jeunes adolescents rejetés sur une île déserte et s'efforçant en vain de fonder une société, ce qui tourne au désastre, car ils n'ont pas, pour les aider, la connaissance d'un passé. C'est le sujet du livre célèbre de William Golding, « Sa Majesté des Mouches ». Il est quand même, vous savez, surprenant de se dire qu'à notre époque, on voit ce désir si vif et si louable chez tout le monde d'aller partout chercher à connaître tous ceux qui sont nos contemporains à travers la planète et qu'en même temps, il existe ce refus de connaître un passé qui est notre vie et en fait, il serait grand temps de communiquer à tous cette idée que tout avenir se construit en fonction d'un passé qui vous aide et vous porte plus loin. Mais ce passé, cette connaissance du passé, ainsi rendue proche et capable d'action, où la trouve-t-on ? Eh bien, en grande partie, avant tout, dans la littérature. Et là est, à mes yeux, la merveille. On la trouve dans les textes, français ou étrangers, modernes ou anciens. Et c'est une grosse erreur, je crois, de penser que l'enseignement de la littérature est une sorte d'élégance superflue. Tout au contraire, c'est là que nous puisons beaucoup de nos idées de la vie. Et le détour par les textes, je dis détour, mais je veux dire que c'est souvent le moyen le plus direct de la formation de l'homme. Ces textes nous apportent quoi ? Tout. Les raisonnements, les analyses, les idées, mais aussi les personnages, les images, les mythes, les rêves auxquels se sont complus tous les gens du passé. Ils nous ont un jour émus parce qu'ils étaient exprimés ou décrits avec force. Et ainsi, cette expérience est devenue, s'intègre à la nôtre. Je sais bien que tous les enfants ne pousseront pas très loin ces études littéraires. Les plus jeunes, dans les petites classes seulement, n'en auront qu'une connaissance superficielle. Je le regrette d'ailleurs, mais c'est ainsi. Et je crois que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Même une simple fable de La Fontaine, c'est déjà quelque chose. Et même les jeunes comprennent déjà beaucoup et tirent déjà beaucoup d'une simple fable de La Fontaine. Tout compte, à condition que les choses soient présentées dans un contact direct et de façon à toucher ceux qui écoutent. Mais ici, je dois évoquer une nouvelle petite difficulté qui est d'ordre de méthode. Trop de méthodes pédagogiques à l'heure actuelle insistent avant tout sur la nécessité de faire réécrire le texte par l'enfant avec ses propres mots, ce qui est un très bon exercice qui a seulement l'inconvénient de faire perdre à ce texte toute sa force. En réalité, il faut qu'il y ait un vrai contact avec ce texte. Et l'idéal de l'enseignement littéraire, c'est justement d'établir ce contact sans écran, sans obstacle, de façon complète et directe, pour que puisse se former chez l'un ou chez l'autre, un jour ou un autre, cette réaction, soit d'indignation, soit de ferveur, qui, peu à peu, s'additionnant, constitue notre être intérieur. Protagoras, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait déjà, dans Platon, que c'était très bien que les jeunes Athéniens étudient le texte d'Homère, qui, entre parenthèses, était de 3 siècles antérieurs. Que c'était très bien, car ils trouvaient là des modèles de vie héroïques et qu'ainsi ils y puisaient le désir de les imiter. Nous n'allons pas tout à fait aussi loin aujourd'hui et je ne crois pas que nous placions en tête de tout les vertus héroïques. Mais il reste que dans leur diversité même, les textes apportent aux jeunes, dit de façon frappante, ce qu'ils n'auraient jamais connu dans leur expérience propre, nécessairement limitée. Ils sont pénétrés et peu à peu se forme ainsi une impression presque inconsciente, mais durable, qui s'intègre à leur personnalité. Et souvent, cela reste. Cela peut quelquefois susciter de nouvelles créations littéraires, de nouveaux chefs-d'œuvre. Par exemple, pour les souvenirs grecs, avec le cas de Giraudoux, de Sartre ou de tant d'autres. Mais je crois que cela reste aussi dans chacun de nous. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'ait pressenti sur le moment ou pas, cela reste comme des présences cachées, presque oubliées, mais ineffaçables. Et à ces présences, je précise que s'ajoute une idée précieuse entre toutes en notre temps, qui est l'idée même de la beauté. Tout ça est très bien, mais on me dira que je n'ai pas parlé du grec et qu'on ne me reconnaît pas. C'est une erreur. J'ai parlé du grec tout le temps, car s'il y a une discipline qui est souffert presque jusqu'à mourir de ce divorce dont j'ai parlé, alors qu'elle avait une telle richesse dans l'autre domaine, le domaine de l'éducation morale, c'est bien le grec. Donc vous aurez compris que j'en parlais quand je n'en parlais pas. En tout cas, forte du souvenir de cet enseignement qui était aussi au sens fort une éducation, j'ai songé un moment à transposer pour vous le titre célèbre qui vous évoquera immédiatement quelque chose en disant « cet enseignement rayonnant, cette éducation rayonnante, elle a existé ». Je l'ai rencontré. Mais j'ai voulu le faire, je ne le fais pas. Car je ne voudrais pas avoir l'air de raconter des souvenirs d'autrefois, malgré le fameux grand âge. Je ne voudrais pas non plus avoir l'air de parler d'une éducation aujourd'hui périmée. J'ai employé le mot de crise au début. Et qui dit crise suppose un redressement possible. Et il y en a déjà des signes avant-coureurs. Nous avons des protections précieuses entre tous. Nous avons des lettres très nombreuses qui montrent une aspiration déjà largement répandue pour un sursaut. Et des livres, il en paraît plusieurs chaque année en ce moment, allant dans le même sens. Je dirais qu'un sursaut est possible si l'on se rend compte de l'élan nécessaire pour dominer le malentendu, le déséquilibre, le divorce dont j'ai parlé. Il ne s'agit pas du tout de revenir au passé. Il s'agit de rétablir cet équilibre qui a été, pour les raisons que j'ai dites, si dangereusement affaibli puis écarté, est de préparer ainsi un avenir qui serait meilleur. Je crois que cela est possible. Je crois que chacun de vous, si vous en êtes un peu convaincu, vous pouvez aider à faciliter ce sursaut. Et je vous en suis à l'avance reconnaissante. Et je vous remercie aussi de votre attention. Merci.
Canal Académie vous invite à écouter l'intégralité des discours tenus sur le thème de l'éducation. À l'occasion de cette rentrée solennelle de 2008, retrouvez les discours de Bernard Bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques, de Franciscus Verhelen de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de Pierre Léna de l'Académie des sciences et enfin d'Edith Cana de Chizy de l'Académie des beaux-arts.